Et aujourd'hui, nous avons un monument de la littérature du XXe siècle. Georges Bernanos, décédé il y a près de 50 ans, en 1948. C'était un pourfendeur, qu'on peut dire, des deux péchés majeurs, comme on l'a écrit, la médiocrité et l'indifférence. Il s'est attaqué à la médiocrité, à l'indifférence. Il a écrit de très belles choses sur la sainteté que je vous lirai tout à l'heure. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Piala, le grand cinéaste, a tourné il y a quelques années, en 87, un film admirable, Sous le soleil de Satan, de Georges Bernanos. Le film fut plus ou moins bien reçu à Cannes, mais en même temps, il a obtenu la Palme d'Or. Chose étonnante, c'est un peu un signe de l'œuvre de Bernanos. C'est une œuvre qui chavire, qui bouleverse les gens, qui parfois les irrite, mais qui a enchanté des millions et des millions de lecteurs ou de gens qui ont été influencés par l'œuvre de Bernanos. Bernanos, peu avant sa mort, s'inquiétait parce que ce n'était pas sa mort prochaine qui le préoccupait vraiment, mais c'était l'avenir des siens, de ses enfants. « Si je meurs, que deviendront les miens ?» C'est ce qu'il disait. Il avait un tel amour, il ne voulait pas laisser personne dans la misère. Il répétait avec angoisse ces paroles-là, et c'est ce que nous rappelle le fameux abbé Pézeril, son ami, qui a écrit « Nul ne lui furent plus présents, parce qu'il se savait responsable d'eux devant Dieu. » Il ajoute cependant, l'abbé Pézeril, il tenait en même temps à mettre ordre à ce que je suis bien obligé d'appeler son sacerdoce, un laïc pourtant. Il veillait, dit l'abbé Pézeril, au salut éternel d'un grand nombre d'êtres qu'il avait approchés et dont il avait seulement entendu parler. En ces jours-là, il m'entretenait des âmes qu'il croyait en péril et qui lui étaient les plus chères. Un tel, il faudrait lui dire ceci. Oh, je vous en supplie, occupez-vous de tel autre. Celui-ci, actuellement, vous ne pouvez rien faire pour lui, parce que, mais j'ai confiance, priez pour lui. Oh, cet autre, aimez-le pour moi, il a tellement souffert. Et ainsi de suite, de son cœur surgissaient des noms et des images. C'est ce que raconte l'abbé Bézeril dans Bernanos et sa mort, publié au Seuil. On savait bien que Bernanos n'avait pas écrit pour le plaisir, qu'il n'avait pas vécu au fil des jours, mais qu'il avait, au contraire, une fois pour toutes, donné toute sa vie, son temps, sa plume, ses forces, pour ceux qui l'aimaient et pour tous les autres. Tous les autres qui viendraient plus tard et qui viennent toujours. Il est mort depuis près de 50 ans, vous ai-je dit, pourtant. On voit toujours ses livres sur les rayons des librairies. On voit Sous le soleil de Satan, le journal d'un curé de campagne, Dialogue des Carmélites, Les grands cimetières sous la lune, L'imposture, Monsieur Wynne, La joie, Scandale de la vérité. J'ai même trouvé l'autre jour l'édition originale de Sous le soleil de Satan, paru au Roseau d'Or en 1927. J'étais très fier, j'ai acheté ça il y a 6 mois, par hasard. Comme l'a écrit Luc Balbon, un de mes grands amis, au début de son livre consacré à Georges Bernanos, et co-écrit avec le fils de Bernanos, Jean-Loup Bernanos, que je connais fort bien aussi grâce à mon travail à Radio-Canada, il écrit, Luc Balbon, toute l'œuvre de Bernanos milite en faveur de la communion des saints. Il s'y penche avec amour sur ceux qui semblent laissés pour compte de l'Esprit Saint, égarés sur les routes noires qui ne mènent nulle part, dans le doute, la révolte et le désespoir. Et alors, sous sa plume, la plume de Georges Bernanos, tout se met en marche pour venir au secours de ces âmes écrasées. Et aujourd'hui, en réponse à cet effort, à cette œuvre d'une vie, des voix très nombreuses se dressent pour témoigner. C'est incroyable tout ce qui s'est écrit sur Georges Bernanos. L'un des meilleurs ouvrages, je crois bien que ça demeure toujours la biographie que Max Milner a publiée de Georges Bernanos il y a déjà très longtemps. C'est introuvable, je crois, en librairie, mais vous le trouverez dans des bibliothèques. De toute façon, c'est paru chez Desclée de Brouwer, ou de Brouwer, comme certains disent. Et parce qu'en Belgique, on dit « ouer », c'est la prononciation. Il y a aussi « Regard sur Bernanos » par Henri Guillemin chez Gallimard. C'est assez intéressant, mais c'est du Guillemin. Et saviez-vous que Hans Urs von Balthasar a publié « Le chrétien Bernanos » Ça a été traduit par Maurice de Candiac. Paru au Seuil, c'est une énorme brique que Hans Urs von Balthasar a consacrée. Près de 600 pages. Il y a aussi un très beau livre avec Bernanos de Gérard Leclerc, paru chez Albin Michel. C'est un excellent petit livre, moins long que les autres. Et au Québec, on a publié quelque chose d'intéressant. C'est un livre en collaboration, paru à l'occasion du centenaire de sa naissance. Alors, au moment d'ailleurs où paraissait le film de Pia, c'est la revue Le Beffroi, revue philosophique et littéraire de Trois-Rivières. C'est une intéressante revue, c'est surprenant ce qui se publie là-bas à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et enfin, il y a le fameux Bernanos, le scandale de croire, aux éditions du Centurion de Bernard Haldam. Il y en a tellement d'autres que j'ai dans ma bibliothèque que ce serait fastidieux, mais je ne saurais continuer sans mentionner le grand Georges Bernanos à la merci des passants de Jean-Loup Bernanos, son fils, paru chez Plon, que Jean-Loup Bernanos m'avait remis après un dîner chez lui, en compagnie de sa femme. C'est un livre considérable de 500 pages, bouleversant, très très touchant. Bernanos a écrit sur lui-même à la demande. C'est en 1945 que Georges Bernanos a écrit une notice autobiographique. Et en voici quelques extraits. Je suis né le 20 février 1888 à Paris, où mes parents résidaient pendant l'hiver. Mais j'ai passé les meilleurs jours de mon enfance et de ma jeunesse dans une vieille propriété de campagne appartenant à mon père, au petit village de Fressin dans le Pas-de-Calais, dans un pays de grands bois et de pâturages, où j'ai plus ou moins fait vivre depuis tous les personnages de mes romans. Plus loin, il ajoute, ma famille paternelle est de lointaine origine espagnole, mais française, depuis le début du XVIIe siècle. C'est de là que vient le nom Bernanos. Et fixé depuis en Lorraine. La famille de ma mère est berrichonne. Et il ajoute, si je voulais résumer en quelques mots pour des amis l'essentiel de ce que fut ma formation religieuse et morale, je dirais que j'ai été élevé dans le respect, l'amour, mais aussi la plus libre compréhension possible, non seulement du passé de mon pays, mais de ma religion. Comprendre pour aimer, aimer pour comprendre. C'est bien là, probablement, notre plus profonde tradition spirituelle nationale, c'est ce qui explique notre horreur de toute espèce de pharisaïsme. Il avait une telle horreur du pharisaïsme que ses ouvrages en sont, pour ainsi dire, remplis. C'est un prophète, hein? Il ajoute, dans ma famille catholique et royaliste, oui, ils étaient royalistes, chose étrange pour nous aujourd'hui, dans ma famille catholique et royaliste, j'ai toujours entendu parler très librement et souvent très sévèrement des royalistes et des catholiques. Étrange. Je crois toujours qu'on saurait réellement servir au sens traditionnel de ce mot magnifique qu'en gardant, vis-à-vis de ce qu'on sert, une indépendance de jugement absolue. C'est la règle des fidélités sans conformisme, c'est-à-dire des fidélités vivantes. Ce qui veut dire, en somme, c'est d'avoir le sens critique. Pas un sens critique désagréable, un sens critique. Il termine en disant, J'ai fait une partie de mes études à Paris, au collège de Vaugirard, chez les Jésuites, où j'ai eu pour compagnon le général de Gaulle, qu'il va retrouver à la fin de la guerre. Je les ai terminés dans un charmant petit collège provincial à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Alors, ces professeurs se souviennent dit-on, d'un élève auquel ses parents avaient laissé la liberté de lire un peu n'importe quoi, quoi. Il lisait Balzac, il lisait Zola, Barbey d'Aurevilly, Walter Scott, Ernest Hello, Drummond, puis les écrivains d'action française aussi, évidemment, ils étaient royalistes, auxquels il se rallie d'ailleurs de bonne heure, il se rallie aux écrivains d'action française. Il bataille pour la cause monarchiste, le rétablissement de la royauté en France, quoi, contre des professeurs et des camarades qui sont, eux, démocrates. Il manifeste à Arras et dans la région, même contre les prêtres du ralliement, ceux qui veulent suivre le pape dans le ralliement à la République. Car Léon XIII leur a demandé cela. Et il est aussi bien aussi contre les conférences des libres penseurs quand même, parce qu'il est catholique. Alors c'est un batailleur, hein? Il est premier démêlé avec la police. De 18 à 25 ans, donc de 1906 à 1913, il est à Paris, où il entreprend des études supérieures à la faculté de droit par l'Institut catholique. L'Institut catholique est une université catholique à Paris. Et puis, il obtient une licence S-lettres, puis une licence en droit. Et avec trois camarades, Bernanos se mêle à la bagarre politique. Il complote le rétablissement de la monarchie au Portugal. Alors la police s'inquiète, puis il est incarcéré pour avoir pris une part active dans une affaire, là, je vous fais grâce, en 1909. Et il va collaborer bientôt à l'Action française de Maurras, hein, et à d'autres périodiques monarchistes. Dès leur fondation, il appartient au cercle Proudhon qui était fameux. Il rencontre Léon Daudet, Maurras, voyez-vous, puis il dit, pour tout dire, j'aimais le bruit. C'était un tonitruant un peu, Bernanos, hein. Alors, l'année qui précède la Grande Guerre 14-18, 1914-1918, Bernanos est à Rouen, où il dirige un journal, L'Avant-Garde de Normandie. C'est un hebdomadaire royaliste dans lequel, là, il va poursuivre une polémique contre le fameux philosophe Alain, dont je vous ai déjà parlé. Et Alain, lui, il écrit dans La Dépêche Rouen, donc ils sont au même endroit, hein. Puis dans son journal, il fait paraître plusieurs nouvelles, ses premiers essais romanesques, Bernanos. Ses premiers exercices, ses tout premiers, eux, avaient été publiés dès 1907. Il était jeune encore, 19 ans. Il dit, j'ai fait la guerre de 1914, engagé volontaire comme simple caporal, c'est-à-dire dans une familiarité puis une fraternité quotidienne avec mes camarades ouvriers et paysans. Et ça, ça va énormément changer sa vie, ça. Il dit, ils ont achevé de me dégoûter pour toujours de l'esprit bourgeois. Il ajoute cette phrase extrêmement importante, chez un royaliste, c'est étrange. « Ce n'est pas la misère ou l'ignorance du peuple qui m'attire, c'est sa noblesse. L'élite ouvrière française est la seule aristocratie qui nous reste, la seule que la bourgeoisie du 19e et du 20e siècle n'a pas encore réussi à avilir. » Alors, de 1914 à 1918, les hommes de l'avant ont vécu l'honneur, ceux qui fonçaient dans la guerre, ceux qui étaient sur les premiers rangs. Hein. Il ajoute, ceux de l'arrière ont vécu la haine, ceux qui restaient dans leur bureau et commandaient. À quelques exceptions près, ajoute-t-il, tout ce qui n'avait pas combattu s'est retrouvé pourri sans remède, pourri sans retour, au bout de ces 4 années sanglantes. Alors, le 14 mai 1917, Georges Bernanos épouse, à 29 ans, Jeanne Talbert d'Arc. C'est la descendance en droite ligne d'un frère de Sainte-Jeanne d'Arc. Ils auront 6 enfants qui vont naître de 1918 à 1933, Chantal, Yves, Claude, Michel, Dominique et Jean-Louis. Ce dernier est passé à rencontre et je vous en ai déjà glissé un mot tout à l'heure. Bernanos a donc épousé une descendante du frère de Sainte-Jeanne d'Arc. Ils ont plusieurs enfants. 6 enfants. Et au retour du front de cette guerre 14-18, il n'a pas repris son métier de journaliste. En désaccord avec la politique parlementaire de l'Action française, là, il s'en est séparé, puis il devient inspecteur d'une compagnie d'assurance. C'est terrible pour lui. Il passe des semaines en tournée. Il écrit dans les trains et dans les hôtels de commis voyageurs. C'est en février 1925 qu'est terminé sous le soleil de Satan, que son ami Robert Valéry Radeau accueille avec enthousiasme. D'ailleurs, ça lui est dédicacé. Alors, il le présente au Roseau d'Or. Le Roseau d'Or, c'était une collection fantastique. Je me souviens, quand j'étais jeune, on achetait ça, le Roseau d'Or. Et c'était dirigé par Stanislas Fumet, que j'ai connu aussi à Paris, puis Jacques Maritain, que j'ai connu à Montréal, lui. Des hommes extraordinaires. Où sont ces hommes extraordinaires aujourd'hui? Le Québec vient d'en perdre un aujourd'hui. Que c'est terrible, la mort de ce grand catholique à Québec. Et le livre paraît chez Plon en mars 1926. Couverture bleue. Le succès est immédiat et retentissant. Bernanos décide de quitter les assurances. Il n'en peut plus. Pour vivre de sa plume, ce ne serait pas facile. Ça peut être le début d'une vie agitée. Je crois qu'il va déménager 38 fois dans sa vie. Et il vivra plutôt dans la pauvreté, pourtant sa femme vient d'un milieu plutôt riche. Bernanos écrit aussi l'imposture. Malgré l'anxiété où ça lui est plongé durant quelques semaines de l'automne 1926, par la condamnation de l'action française par le Vatican, le pape a condamné cette opposition aux directives du Vatican de se rallier à la République et de cesser de courir après le rétablissement de la royauté. Il se rapproche alors de ses anciens amis, puis il le déclare publiquement. C'est le temps de son amitié avec Henri Massis et Jacques Maritain, mais l'ami le plus proche demeure toujours Robert Valéry Radeau. Je vous en parlerai de ces gens, je vous ai déjà fait une émission sur Jacques Maritain, je crois. Du moins, elle est prête. Premier refus en janvier 1927 de la Légion d'honneur. Il se met à refuser tous les titres, tous les honneurs. Il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Il va refuser encore la Légion d'honneur en 1938, 11 ans plus tard, puis en 1946. Et c'est à Clermont-de-l'Oise qu'il rédige son troisième roman, La Joie. La Joie. Publié en 1929. Ça va lui mériter le prix Fémina. L'année suivante, en juin 1930, il est soigné pour des crises d'angoisse. Puis termine La grande peur des bien-pensants. Je ne saurais trop vous recommander de lire ça si vous avez le goût de lire quelque chose qui nous secoue. C'est un peu dépassé, mais ça fait rien, c'est à meurtre toujours intéressant. Puis il commence La paroisse morte qui va devenir Monsieur Wynne. Monsieur Wynne, il y a des rapports aussi dans La Joie. Hein? C'est deux livres qui vont un peu ensemble, ça, deux romans. Une série d'articles littéraires et politiques aussi commencée en novembre 1931 dans le fameux Le Figaro, hein, de François Coty. Ça va l'entraîner de mai à novembre 1932 dans une polémique épouvantable contre Maurras, le directeur de l'Action française, contre Daudet, Léon Daudet, contre Pujol. Ça va provoquer sa rupture définitive avec l'Action française. Il se veut catholique et fidèle à l'Église. L'année suivante, en juillet 1933, un accident de motocyclette qui lui broie la jambe, ça va le rendre infirme pour le restant de ses jours. De graves difficultés financières aussi. Le décide à partir pour les Baléares, en Espagne, où la vie est moins chère. Il va à Majorque. En 1934, il dit « J'ai quitté la France pour l'Espagne, Majorque. J'ai écrit un crime. » Le journal d'un curé de campagne, la nouvelle histoire de Mouchette et les grands cimetières sous la lune. Et cette expérience d'Espagne a été peut-être l'événement capital de ma vie. J'y ai vu de près les dessous de la croisade espagnole et l'épuration franquiste. J'ai pu observer à quelle profondeur le poison totalitaire avait corrompu les consciences catholiques et jusqu'aux consciences sacerdotales même. Et je ne saurais en dire ici plus long à ce sujet. Je me permets de renvoyer les lecteurs à mon livre. Il a été furieusement attaqué, ce livre, alors, et rien n'a été épargné pour obtenir une condamnation de l'index. J'ai des raisons de croire que Pie XI lui-même s'est opposé à cette condamnation, refusant de donner ce consentement aux simoniaques et aux assassins. Puis il continue, j'ai quitté l'Espagne en 1937 pour rentrer en France. La déroute des consciences y faisait prévoir celle des armées. La triple corruption nazie, fasciste et marxiste n'avait presque rien épargné de ce qu'on m'avait appris à respecter et à aimer. Et j'ai quitté presque aussitôt mon pays. Il n'était plus possible à un homme libre d'y écrire et même seulement d'y respirer. J'ai été d'abord au Paraguay, puis au Brésil. Incroyable, mais au Brésil. J'ai vécu l'année qui a précédé la guerre dans une fazenda solitaire avec ma femme et mes enfants, loin du chemin de fer et des routes, sans autre compagnie que celle de nos chevaux et de nos vaches. J'ai écrit alors « Nous autres Français » et « Scandale de la vérité » afin d'essayer d'éclairer mon pays. Vous voyez que c'est une vie incroyable. Il part avec sa femme, ses 6 enfants, pour le Brésil à la veille de la guerre. Et en quittant la capitale brésilienne, l'intention de Georges Bernanos était de fonder à l'intérieur des terres là, une exploitation agricole, quoi, en particulier d'élevage. Il espérait pouvoir subvenir là, aux besoins de sa femme, ses enfants, autrement que par la plume. Il voulait pouvoir enfin écrire, sans contrainte financière, là, tous les romans qu'il habitait. Et puis l'expérience, en raison du départ pour l'Angleterre de ses deux fils et de son neveu, les deux fils aînés puis son neveu, c'était un échec. Hein. Jean-Loup Bernanos, d'ailleurs, son plus jeune fils, raconte « Mon père en conclut avec humour qu'au lieu de se faire nourrir par ses vaches, comme il l'avait espéré, il ne lui restait qu'à reprendre la plume pour nourrir les vaches. » Un visiteur, d'ailleurs, devenu un intime de la famille, donne un autre son de cloche. C'est Don Paul Gordon, qui raconte comment il vivait, mais c'était terrible. Terrible. Il lui arrivait toutes sortes d'aventures pénibles, dont il riait finalement. Et c'est assez sympathique à lire. Il faut lire ça dans les vies de Bernanos. Mais Bernanos va abandonner toute création littéraire pour se consacrer au combat par la plume. Tâche qui va lui paraître plus utile et plus urgente. Mais ça lui coûte énormément. Parce qu'il écrit « Je ne suis ni polémiste ni pamphlétaire, encore moins un doctrinaire. Dieu sait le chagrin que j'ai à ne plus écrire de romans. C'est un sacrifice très grand pour moi. Mais je veux essayer de rendre aux gens leur réflexe de bonne foi et de sincérité. » Que deux de ses fils soient finalement rangés du côté du général de Gaulle, ça le surprend, mais ça le touche aussi. Les articles, les messages ont été recueillis dans plusieurs volumes. Ça a pour titre « Le chemin de la croix des âmes »,« Le lendemain, c'est vous », »,« La vocation spirituelle de la France », qui était très lu, ça, et aussi « Lettres aux Anglais », puis « La France contre les robots hein. ». Bernanos ajoute dans son autobiographie, sa petite autobiographie, « Je n'espère pas beaucoup vivre demain dans un monde libre. Je crains pour la liberté. Une crise terrible qui mettra en péril la mort, en péril de mort, la chrétienté universelle. » Il voit la fin de la chrétienté universelle. À cause du matérialisme du tout, il écrit « Le phénomène le plus singulier de la présente guerre, en effet, c'est que les totalitarismes ne s'y démocratise nullement. » Et puis là, il ajoute une phrase clé. « Ce sont les démocraties qui se totalitarisent. » Et c'est vrai. Hein? Nous vivons dans des démocraties totalitaires. Il y a comme un rouleau compresseur qui écrase le christianisme, particulièrement le catholicisme. On ne s'attaque absolument pas à l'islam, ni au judaïsme, ni même au protestantisme, ni à l'anglicanisme. C'est le catholicisme, cette grande et immense religion, qui dans cette démocratie totalitaire de l'Occident est écrasée. On dit pique-pendre de nous. Bernanos ajoute au cas où il ne me serait pas permis demain d'écrire dans mon pays ce que je pense, je le quitterai de nouveau pour un coin encore plus éloigné du monde et j'y travaillerai à de nouveaux livres dans l'espoir qu'ils serviront un jour, fût-ce longtemps après sa mort, la cause à laquelle j'ai consacré ma vie. Et à mesure que le temps s'écoule, eh bien Bernanos est attaché de plus en plus profondément à la terre et au peuple brésilien. Et déjà, fin 1940, il lui rend un beau témoignage. Il dit « Après Munich, j'écrivais que j'étais venu au Brésil cuver ma honte. Je n'y ai pas cuvé ma honte, j'y ai retrouvé ma fierté, et c'est ce peuple brésilien qui me l'a rendu. » Rentré au pays finalement, début de juillet 45, Bernanos ne restera pas longtemps à Paris. Fidèle à son nomadisme, il s'en va à divers endroits. Il multiplie les articles. Il crie sa déception devant la 4e République. Il prodigue des mises en garde, il dénonce les formes nouvelles du totalitarisme, et on lui offre un poste de ministre, c'est De Gaulle qui lui offre ça, d'ambassadeur même, on lui offre la Légion d'honneur, l'Académie française. En chrétien humble et qui se veut libre, il refuse tout d'un bloc. Il est déjà malade, il s'épuise dans ses luttes, et il finit par quitter de nouveau la France. Et nous verrons tout à l'heure l'héroïsme de cet homme. Parce qu'il est viscéralement libre et incapable de soumettre sa conscience à la moindre compromission. Il offre l'exemple d'un homme qui n'a jamais su se sentir à l'aise dans les classifications politiques habituelles, parce qu'il est profondément catholique, et il était en même temps sa manière, chose étrange, anticléricale et anticonservateur. Et nous verrons comment tout ça se mélange et fait de lui une sorte de saint moderne. Et Bernanos, je vous ai dit, était profondément catholique, mais il était en même temps sa manière anticléricale et anticonservateur. Et sa réaction, je vous en ai parlé un peu, là tout à l'heure, devant la répression de Franco à Majorque, en Espagne, où il habitait, l'a conduit apparemment à se rapprocher de la gauche. Il fut en tout cas jusqu'en 1945, à la fin de la guerre, l'un des plus sévères critiques de la droite française et européenne. Mais, il y a un mais. Après la victoire alliée, le climat créé en France par le succès des partis de gauche lui a été absolument insupportable. Et ses derniers articles, il est mort en 48, ont été jugés profondément réactionnaires par les milieux de gauche. C'était un homme qui pouvait changer, non pas d'idée, car son idée était toujours au creux de lui, mais ça lui faisait prendre des chemins qui semblaient différents, mais au fond, c'était toujours le même chemin. En fait, Bernanos avait la nostalgie du temps, où les notions de droite et de gauche n'existaient pas. Il avait la nostalgie de l'ancienne France, comme il dit, si une et si diverse à la fois, où chaque Français pouvait trouver sa place, l'occuper avec honneur, c'est ce qu'il écrit. Alors le voilà en Tunisie, finalement, à Hammamet, puis à Gabès. Tout en poursuivant sa campagne d'articles et de conférences, Georges Bernanos écrit durant l'hiver 1947-1948 les dialogues des Carmélites, dont on entend de brefs extraits au cours de cette émission, interprétés par les chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Alors il termine, il achève tout ça à la mi-mars 1948. Le jour même où l'aggravation de sa maladie de foie l'oblige à s'aliter définitivement, alors on le ramène d'urgence à Paris pour une opération désespérée. Lui qui avait tant médité sur la mort, avec crainte, avait écrit « Si vous saviez, comme j'en ai peur de la Camarde !» C'est dans une lettre à l'abbé Lagrange, on trouve ça dans « Combat pour la vérité ». Il a aussi écrit dans Jeanne Relaps et Saint, je vais vous en lire des extraits tout à l'heure. Il dit « Avec douceur et espérance, ô mort si fraîche, ô seul matin. » C'est beau ça, ô seul matin. C'est le seul matin. Nous sommes dans une petite nuit, qui parfois une grande nuit ici-bas. Hein? Il y a de vallée de larmes, comme dit, j'aime pas tellement ça. C'est une vallée de joie aussi, la vie. Hein? Mais c'est quand même une voie de ténèbres dans un sens que la vie, puisque nous ne voyons pas Dieu. Mais nous le verrons, et ce sera le matin, le seul matin, au seul matin, écrit-il dans Jeanne Relaps et Sainte. Et c'est en murmurant, au moment de sa mort, à nous deux maintenant, qu'il est mort le 5 juillet 1948 à l'hôpital américain de Neuilly, à Paris. Parlant de sa vocation, il a écrit « Pour moi, l'œuvre de l'artiste n'est jamais la somme de ses déceptions, de ses souffrances, de ses doutes, du mal et du bien de toute sa vie, mais sa vie même, transfigurée, illuminée, réconciliée. Or, je sais bien que nous ne goûtons jamais le vin nouveau de cette réconciliation de nous-mêmes avec nous-mêmes. » Alors que la vendange est faite, comme la douleur physique peut se prolonger longtemps après que la cause en a cessé. L'ayant réalisée au prix d'un effort immense, ajoute-t-il, nous continuons de la désirer encore. C'est que notre joie intérieure ne nous appartient pas plus que l'œuvre qu'elle anime. Il faut que nous la donnions à mesure. C'est vrai que notre joie intérieure, ça ne nous appartient pas. Il faut la transmettre. Il faut la donner autour. Le chrétien, c'est ça. Le chrétien, c'est un distributeur de joie. Comme dit Bernanos, il faut que nous la donnions à mesure. Il faut que nous mourions vides. Il faut que nous mourions comme des nouveau-nés. Avant de se réveiller, le seuil franchi dans la douce pitié de Dieu, comme dans une aube fraîche et profonde. Dieu qui l'écrit bien. Que c'est beau du Bernanos. Et comme le dit si bien son fils Jean-Loup Bernanos, mon père était aussi un ami du rire. Il préférait à tout autre l'entourage des jeunes. Il a été un tendre père de famille, compagnon de ses enfants, riant de leurs farces, participant à leurs jeux, blagueur avec ses amis. Il aimait la chasse, le cheval, les grandes randonnées à moto, les routes grises dorées par l'averse, les nuits palpitantes d'étoiles et les levées de soleil sur la mer. Amateur plein d'humour, de bonnes histoires, comme on dit, il aimait la vie. Or, qu'est-ce que Bernanos disait de la vie? Voici ce que Georges Bernanos écrit sur la vie. La vie, c'est ton caractère, je vous préviens, c'est le caractère de Georges Bernanos. La vie que les imbéciles parcourent à toute vitesse, sans prendre le temps de la regarder. La vie pleine de secrets admirables qu'elle met à la disposition de tous et que personne ne lui demande jamais. Dans Point Sagesse, en 1983, au Seuil, aux éditions du Seuil, dans Les Prédestinés, il y a un texte, Nos amis les saints, de Georges Bernanos. Je vous lis cet extrait. J'en ai un autre pour tout à l'heure. Le scandale de l'univers n'est pas la souffrance, c'est la liberté. Dieu a fait libre sa création. Voilà le scandale des scandales. Car tous les autres scandales procèdent de lui. Or, je sais bien, nous paraissons être ici en pleine métaphysique. Que voulez-vous que j'y fasse? Si je me fais mal comprendre de quelques-uns d'entre vous, c'est que je me serai mal expliqué, voilà tout. Expliqué, d'ailleurs, à quoi bon? Ajoute Bernanos. Il y a en ce moment dans le monde, au fond de quelque église perdue, ou même dans une maison quelconque, ou encore au tournant d'un chemin désert, tel pauvre homme qui joint les mains, et du fond de sa misère, sans bien savoir ce qu'il dit, ou sans rien dire, remercie le bon Dieu de l'avoir fait libre, de l'avoir fait capable d'aimer. Il y a quelque part ailleurs, je ne sais où, une maman qui cache pour la dernière fois son visage au creux d'une petite poitrine qui ne battrait plus. Une mère près de son enfant mort, qui offre à Dieu le gémissement d'une résignation exténuée, comme si la voix qui a jeté les soleils dans l'étendue, ainsi qu'une main jette le grain, la voix qui fait trembler les mondes, venait de lui murmurer doucement à l'oreille, « Pardonne-moi, un jour tu sauras, tu comprendras. » Tu me rendras grâce, mais maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ton pardon. Pardonne. C'est étonnant, hein? Dieu, créateur de l'univers, qui demande pardon à une maman. Son enfant est mort. Et Bernanos ajoute, ceux-là, cette femme harassée, ce pauvre homme, se trouve au cœur du mystère, au cœur de la création universelle, et dans le secret même de Dieu. Que vous en dire? Le langage est au service de l'intelligence. Et ce que ces gens-là ont compris, ils l'ont compris par une faculté supérieure de l'intelligence, bien qu'elle ne soit nullement en contradiction avec elle, ou plutôt par un mouvement profond et irrésistible de l'âme qui engageait toutes les facultés à la fois, qui engageait à fond toute toute leur nature. Oui, au moment où cet homme, cette femme acceptaient leur destin, s'acceptaient eux-mêmes humblement, le mystère de la création s'accomplissait en eux. Tandis qu'ils couraient ainsi sans le savoir, tout le risque de leur conduite humaine se réalisait pleinement dans la charité du Christ, devenant eux-mêmes, selon la parole de saint Paul, d'autres Christ. Bref, ils étaient des saints. Ils étaient des saints. Évidemment que Georges Bernanos disparut. Son œuvre succède à cet homme. Tel prêtre ou religieuse reconnaissent celui de voir leur vocation. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé leur vocation en lisant Bernanos. Vocation sacerdotale, vocation religieuse. Il y a des gens qui ont écrit à Jean-Loup Bernanos et qui lui ont confié qu'accablé de malheur et tenté d'en finir, son père leur avait donné l'espérance. Il y a même un jeune Suisse de 20 ans, parmi tant d'autres, qui affirme, en parlant de la présence de Bernanos, « Jamais il ne me quitte, jamais je ne le quitterai. Il m'accompagnera toute ma vie. » Et puis, une dame rencontrée chez des amis qui a dit à Jean-Loup Bernanos, « Cet exemplaire du journal d'un curé de campagne, tout usé, lu, relu, souligné, qui était au chevet de ma mère jusqu'à son dernier souffle, et cette pierre sur sa tombe où elle nous disait depuis des années qu'il faudrait inscrire « Tout est grâce ». C'est une parole de Bernanos, hein? « Tout est grâce ». Et c'est vrai, si on se disait « Tout est grâce », je vous le répète pour la centième fois, c'est ça qu'on dit à la messe. Hein? Vraiment, il est digne et juste de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Donc, il faut rendre grâce toujours, à tout moment, et en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance, de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui se passe. Tout est grâce. Je dirais même, au risque d'en scandaliser, que le péché est une grâce. Dans le sens qu'on chante à Pâques, hein, « Ô Félix culpa, ô faute bienheureuse qui nous vaut un tel rédempteur. Nos péchés nous font nous rendre compte de notre imbécilité et nous permettent de crier vers Dieu, de demander à l'Esprit Saint de nous arracher à nous-mêmes et de faire de nous des saints. Ce vieil homme, Bernanos, ce père spirituel, a tellement rejoint de gens qu'il a bouleversé la vie de je ne sais plus combien. Il y a des mots que Bernanos a su pleinement réhabiliter. On trouve ça dans sa plume. Lui, il parle du diable, il ne se gêne pas. Il parle du péché. On n'en parle plus de ces choses-là. Il a beaucoup parlé de la pitié. On n'aime pas ça, le mot pitié, aujourd'hui. Pourtant, ça doit exister. Il y a Notre-Dame de pitié. Prends pitié de nous, disons-nous à Dieu. Puis la pauvreté, ah, ça il l'a rétabli. Nul mieux que lui ne nous parle de la pauvreté avec autant de noblesse. Mieux que n'importe qui, il sait nous faire partager les émotions des petits, des humbles, des sans-grades. Tous ceux que les imbéciles sous-estiment ou méprisent. Ah, que je me souviens quand j'ai adopté mon fils, qu'on m'a donc méprisé. On ne voulait plus me visiter. On ne voulait plus me voir. On m'a considéré comme un fou, comme un imbécile. Mais c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu m'ait fait faire. Aucun écrivain n'a su dire comme Bernanos la grandeur de la pauvreté. Cette grandeur du pauvre est toute contenue dans des petits personnages. C'est dans cette grandeur, la grandeur, vous savez, de la petite Séraphita dans le journal, de Guillaume, l'adolescent boiteux dans Monsieur Wynne, de la concubine de Dufretti dans le journal, que se révèle la misère du riche, autrement dit, de nous-mêmes. C'est ça qu'il fait, Bernanos. Il nous pointe du doigt. Luc Balbon écrit d'ailleurs ce qui suit. Bernanos, là encore, traite de la pauvreté en géologue de l'âme. Pas en surface comme les moralistes, les sociologues ou certains romanciers qui y ajoutent parfois des touches de sentimentalisme agaçante. que l'on ne retrouve jamais dans l'univers bernosien. Bernanosien, plutôt. Chez Bernanos, la pauvreté, c'est la conscience du monde, car elle révèle à l'homme le devoir qu'il a envers son frère. C'est ça, Bernanos. C'est un prophète qu'il faut lire. Écoutons encore un bref passage des dialogues des Carmélites. L'ouvrage de Luc Balbon et de Jean-Loup Bernanos, qui est intitulé « Bernanos aujourd'hui », est paru chez Nouvelle Cité. J'avais oublié de vous dire, c'était paru chez Nouvelle Cité. Dans une collection qui s'appelle « Rencontres », parce que Luc Balbon m'avait demandé la permission d'utiliser le titre de ma série, qu'il admet tellement, et dans laquelle il a figuré d'ailleurs, de même que Jean-Loup Bernanos. Luc Balbon raconte que dans le métro, il avait rencontré un jeune Français qui lisait dans la Pléiade Bernanos. Et ce jeune homme lui avait dit « La question religieuse m'a longtemps angoissé. L'enseignement que j'avais reçu était celui d'un Dieu juge, de l'enfer et du paradis. Et c'est en lisant Bernanos que je suis parvenu à me délivrer de cette angoisse. Des phrases comme « Madame, l'enfer, c'est de ne pas aimer. » C'est dans le journal d'un curé de campagne. Ou « Il n'y a qu'une erreur et qu'un malheur au monde. » C'est de ne pas savoir assez aimer. Ça, c'est dans Nous autres Français. Ou encore, le déracinement des vices par la crainte risque de faire des hommes inhumains, dépouillés avec leur passion de toute puissance créatrice. Ça, c'est dans La grande peur des bien-pensants. Et ce jeune homme disait que ces paroles m'ont vraiment rendu l'espérance. Hein? L'émission que je vous ai faite hier sur François Varion vous dit bien que notre foi doit être basée sur cette réponse à l'amour qu'est Dieu. Dieu n'est qu'amour. Je vous lis donc ce beau texte sur la sainteté de Georges Bernanos. L'heure des saints vient toujours. Notre Église est l'Église des saints. Qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit pas voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal, sa pourpre? Quel pontife, sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté est une aventure. Elle est même la seule aventure qui l'a une fois compris, est entrée au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Mais qui se met en peine des saints? On voudrait qu'ils fussent des vieillards pleins d'expérience et de politique, et la plupart sont des enfants. Or l'enfance est seule contre tous. Les malins haussent les épaules, sourient. Quel saint eut beaucoup à se louer des gens d'Église? Et que font ici les gens d'Église? Dieu n'a pas fait l'Église pour la prospérité des saints, mais pour qu'elle transmit leur mémoire. C'est ce qu'on fait ici. Hein? Pour que ne fût pas perdu, avec le divin miracle, un torrent d'honneur et de poésie. Qu'une autre Église montre ses saints. La nôtre est l'Église des saints. À qui donneriez-vous à garder ce troupeau d'anges? La seule histoire, avec sa méthode sommaire, son réalisme étroit et dur, les eût brisés. Notre tradition catholique les emporte sans les blesser dans son rythme universel. Saint Benoît avec son corbeau, Saint François avec sa mandore et ses vers provençaux, Jeanne d'Arc avec son épée, Vincent de Paul avec sa pauvre soutane, et la dernière venue, si étrange, si secrète, suppliciée par les entrepreneurs et les simoniaques, avec son incompréhensible sourire, Thérèse de l'Enfant Jésus. Souhaiterait-on qu'ils eussent tous été, de leur vivant mis en chasse, assaillis d'épithètes ampoulées, salués à genoux, encensés? Ils vécurent, ils souffrirent comme nous, ils furent tentés comme nous, ils eurent leur pleine charge, et plus d'un sans la lâcher se coucha dessus pour mourir. Quiconque n'ose encore retenir de leur exemple la part sacrée, la part divine, y trouvera du moins la leçon de l'héroïsme et de l'honneur. C'est qui ne rougirait de s'arrêter si tôt, de les laisser poursuivre seuls leur route immense? Qui voudrait perdre sa vie à ruminer le problème du mal plutôt que de se jeter en avant? qui refusera de libérer la terre. Notre Église est l'Église des saints. Tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n'est rien de lui-même si la charité ne l'anime. Mais la médiocrité n'y cherche qu'une assurance solide contre les risques du divin. Qu'importe, le moindre petit garçon de nos catéchismes sait que la bénédiction de tous les hommes d'Église ensemble n'apportera jamais la paix qu'aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dispense d'aimer. Notre Église est l'Église des saints. Nulle part ailleurs on voudrait imaginer seulement telle aventure et si humaine d'une petite héroïne hein, qui passe un jour tranquillement du bûcher de l'inquisiteur en paradis, au nez de 150 théologiens. Il parle évidemment de son ancêtre, Jeanne d'Arc. Enfin, il était apparenté à Jeanne d'Arc, le frère de Jeanne d'Arc. « Si nous sommes arrivés à ce point, écrivait au pape les juges de Jeanne, que les devineresses vaticinant faussement au nom de Dieu comme certaines femelles prises dans les limites du diocèse de Beauvais soient mieux accueillies par la légèreté populaire que les pasteurs et les docteurs, eh bien c'en est fait, la religion va périr, la foi s'écroule, l'Église est foulée aux pieds, l'iniquité de Satan dominera le monde. » Et voilà qu'un peu moins de 500 ans plus tard, l'effigie de la devineresse est exposée à Saint-Pierre de Rome, il est vrai peinte en guerrière sans tabard ni robe fendue, et à 100 pieds au-dessous d'elle, Jeanne aura pu voir un minuscule homme blanc prosterné qui était le pape lui-même. Notre Église est l'Église des saints. Du pontife au gentil servant de messe qui boit le vin des burettes, chacun sait qu'on ne trouve au calendrier qu'un très petit nombre d'abbés, oratoires et de prélats diplomates. Seul peut en douter tel ou tel bonhomme bien pensant, à gros ventre et à chaîne d'or, qui trouve que les saints courent trop vite et souhaiterait d'entrer au paradis à petits pas, comme dans son banc à l'église avec le curé son compère. Non, notre Église est l'Église des saints. Voilà ce beau texte de Georges Bernanos, écrit en 1929. Je recevais de Jean-Luc Balbon, alors qu'il préparait son livre, Bernanos aujourd'hui, paru chez Nouvelle Cité. Il disait, je travaille actuellement un livre de Jean-Loup, avec Jean-Loup Bernanos, un ouvrage sur son père. Bernanos aujourd'hui, qui sortira cette année, quelle œuvre, quel écrivain. Jamais un homme de lettres n'est jamais autant descendu dans l'âme du lecteur. Ni Malraux, ni Mauriac, ni même le Camus de la Chute n'avaient réussi cette ouverture dans mon âme. Cette œuvre nous renvoie à nos limites, à nos mesures et faiblesses. On se voit dans ce nabre pernichon, l'habit du fille ou d'autres imbéciles. Mais qu'importe que nous soyons ces êtres limités, le tout c'est de le savoir et de pouvoir sangloter sur notre faiblesse, notre pauvreté. Oh, il est doux parfois de se sentir pécheur et racheté. Bernanos ne cesse de nous le dire, de nous faire racheter par ses saints. Dorissant, le curé d'Ambricourt, Chevance, ses enfants, Chantal, Philippe, etc., nous sommes du peuple de Dieu. Oh, j'aimerais tant vous voir, passer quelques jours avec vous pour méditer et prier. Bien à vous, votre ami, Luc. Cher Luc Balbon, un homme de feu, un converti, s'est converti en voyant la télévision le sourire de Mère Teresa. Je ne saurais terminer sans vous recommander aussi le Bernanos par lui-même, qu'on trouve encore dans Écrivain de toujours aux éditions du Seuil. Les images et les textes sont présentés par Albert Béguin, grand ami de Bernanos. Je crois bien qu'on pourrait prier dans notre cœur Bernanos et lui demander de nous donner ce courage et cette force d'aller voir au-delà des apparences pour trouver finalement le Christ au creux de nous qui nous interpelle à être des saints, à l'imiter, à s'unir à lui pour se jeter auprès du cœur du Père dans l'unité de l'Esprit-Saint.